Salut à toutes et à tous et merci de regarder le sixième opus de L'œil de Moumou, la chronique média de Mourad Guichard. Mourad Guichard est un journaliste indépendant qui regarde notre paysage audiovisuel de manière tranchante et scrute les grandes et les petites dérives de ce PAF. N'hésitez pas à faire connaître cette chronique autour de vous, à partager le lien de la vidéo YouTube et à faire connaître ce nouveau rendez-vous du média. Salut Mourad.
Bonjour à toutes et à tous, bonjour à toi Théo.
Aujourd'hui, comme la semaine dernière, nous aurons un invité sur le plateau dans la rubrique Au Microscope. Il s'agit du journaliste Pablo Pio Vivien, journaliste rédacteur en chef de la revue Regard. Pablo Pio Vivien est à la fois animateur d'un média indépendant, engagé à gauche et intervenant régulier dans des médias mainstream comme la chaîne d'information continue BFM et comme France 2 aussi dans le cadre de l'émission Quelle époque de Léa Salamé. Pourquoi il y va ? Comment ça se passe? Peut-on vraiment y porter une parole différente? On évoquera ces sujets, mais commençons par les top et flop. Et tu voulais commencer par une mise au point.
Oui, donc j'évoquais la semaine dernière la présence de la sœur de Xavier Dupont de Ligonnès, l'homme le plus recherché de France, sur le plateau de Quelle époque avec Léa Salamé. Et j'avais traité le sujet avec ironie, mais j'avais péché, c'est vrai, par omission, parce que en fait, elle avait un narratif au présent qui avait induit en erreur un certain nombre d'internautes, c'est ce qui m'avait alerté. Mais elle parlait effectivement du fait qu'elle avait eu, à l'époque des faits, son frère quelques jours après les événements. Et en fait, ça donnait l'impression, comme c'était un narratif au présent, qu'en fait elle l'avait eu quelques jours avant et donc ça avait planté un certain nombre de téléspectateurs et donc je ne l'ai pas précisé à ce moment-là et c'est une erreur de ma part. Et à partir du moment où je ne suis pas bien compris, c'est que je me suis mal exprimé et donc mea culpa.
Et ton premier top nous emmène au quotidien, l'émission Quotidien.
Oui, alors l'émission Quotidien donc, de Yann Barthès, on y retrouve dans plusieurs autres émissions, on y retrouve Éléonore Schmitt. C'est à elle que je vais adresser mon top. C'est la représentante de l'Union étudiante de Sciences Po, avec cette fameuse polémique qu'il y a eu à Sciences Po, comme quoi une étudiante provocatrice aurait été sortie ou du moins interdite d'entrer à une réunion sur Gaza parce qu'elle serait juive, parce qu'elle serait sioniste, et ainsi de suite. Ça a été débunké depuis, je ne vais pas y revenir. Mais je vais d'abord vous demander effectivement de regarder ce passage de Paul Gasnier sur Le Quotidien, qui ne sait rien, mais va tout nous dire. Regarder.
Des étudiants juifs auraient été interdits d'entrer dans l'amphi pour débattre. Une des élèves aurait été même traitée de sioniste, comme si sioniste était une insulte. Aujourd'hui, Juliette Pellerin, Adrien Acco et Théo Palfrey sont retournés devant l'école. Juliette a pu discuter avec l'élève qui aurait été traitée de sioniste et qui n'a pas pu entrer dans l'amphi.
Quand j'essaie de rentrer dans l'amphithéâtre, trois personnes sont venues devant moi et m'ont dit « Toi, tu rentres pas, tu ne rentreras pas ». Et je leur ai demandé pourquoi plusieurs fois. Ils m'ont dit « On n'a pas à t'expliquer, tu rentreras pas ». Et en fait, derrière moi, c'est ce qu'on m'a dit après, quelqu'un a crié « Elle, tu la laisses pas rentrer, c'est une sioniste ».
Alors notez que dans ce petit reportage, y compris l'intéressé, ne confirme pas que ses propos ont été tenus. Donc il arrive avec des espèces d'acrobaties à essayer de faire mousser une information qui n'en est pas une. Et je trouve ça un tout petit peu extraordinaire. Et voyez comment, par la suite, Éléonore Schmitt, donc la fameuse représentante de l'Union étudiante de Sciences Po, va réussir à tenir tête à des gens qui sont à la fois vindicatifs et hautains, des espèces de boomers de plateau télé. Je vous laisse écouter.
Notre organisation étudiante a une position très claire le soir du 7 octobre où effectivement on a dénoncé ce qui s'était passé, on dénonce des crimes de guerre qui se sont déroulés.
Crimes de guerre, mais pas crimes
terroristes. On dénonce.
Terroriste ou pas terroriste?
Est-ce que vous pouvez me laisser parler? Je parle avec les termes de droit international. Ce sont des crimes de guerre. Ce sont des crimes de guerre. Nous avons dénoncé ça. Je vous dis, ce sont des crimes de guerre. Nous l'avons dénoncé dès le 7 octobre.
C'est une réponse. Vous nous avez répondu.
Donc oui, je vous réponds et je reviens à mon
point. Donc pas terroriste. On a donc entendu
que ce n'était absolument pas justement une réunion du Hamas qui s'est déroulée ce jour-là. Et en fait, aujourd'hui, on ne peut pas criminaliser comme cela est fait, on ne peut pas réprimer. Il y aura d'autres mobilisations comme ça.
On ne peut pas criminaliser le Hamas.
On ne peut pas criminaliser aujourd'hui la mobilisation étudiante qui est faite justement pour le cessez-le-feu, pour la paix. Et je pense que c'est une cause qui est juste.
Ton deuxième top nous emmène à France Info.
Oui, alors c'est Alix Bouyaguet, donc qui se retrouve face à Émeric Caron. Et j'ai trouvé. Alors, à propos de Rima Hassan.
C'est qui Alix Bouyaguet ?
Alors, c'est une journaliste qui est officier sur France Info. Et elle est face au député LFI Émeric Caron, qui est interrogé sur la présence de Rima Hassan, donc la militante pro-Palestine, qui est présente, je crois, en 7e place sur la liste LFI pour les européennes. Et voici comment il va lui répondre. Je trouve ça extrêmement intéressant. On en parle juste après.
En septième position sur votre liste figure Rima Hassan, hein, c'est une franco-palestinienne. Elle a déclenché une polémique récemment en estimant que le Hamas a mené une action légitime le 7 octobre contre Israël.
Non, alors,
intéressant, c'est qu'en fait, Rima Hassan, vous l'aurez sans doute remarqué, depuis plusieurs semaines, est au cœur de polémiques, de choses complètement, parfois un peu délirantes, qui ne collent pas toujours à la vérité. Et là, j'ai trouvé que Émeric Caron avait réussi déjà, d'une part, à répondre à Alix Bouyaguet, mais surtout à rétablir certaines vérités. Et je trouve qu'en ce moment, ça fait du bien d'avoir comme ça un petit peu de transparence. Et je tiens à remercier Jean-Paul Barastier, un internaute qui m'a alerté sur cet extrait.
Et ton troisième top, toujours, il tourne autour de Rima Hassan.
Oui, parce que la question de l'antisémitisme, de la Palestine, de Gaza, en ce moment, occupe quasiment 60 à 70% des temps d'antenne. C'est absolument extraordinaire. Et donc là, on retrouve, alors Rima Hassan toujours, on la retrouve face à Gilles Bornstein, notre confrère toujours de France Info, qui là est un peu parti en live avec des questions perfides. Mais Rima Hassan, malgré... pardon de le dire comme ça, mais malgré son jeune âge et son expérience assez récente de la confrontation avec les médias, s'en est plutôt bien tiré.
Le génocide, c'était la solution finale. Détruire tous les juifs de la surface du monde. Vous pensez qu'Israël veut détruire tous les Palestiniens de la surface du monde ?
Non, mais alors, il faut bien comprendre que la définition du génocide, elle n'est pas caractérisée selon le nombre de personnes qu'on est en train de tuer. C'est Gilles Devers qui explique très bien ça. Il dit que c'est un génocide par destruction du groupe social. C'est-à-dire détruire tout ce qui peut maintenir, si vous voulez, le Palestinien en vie. Et aujourd'hui, il faut le dire, on est dans des cas de famine avérés qui sont de plus en plus gravissimes. On a également des grandes difficultés à faire arriver l'aide humanitaire à Gaza. Donc je crois qu'effectivement on est dans une mécanique, une politique génocidaire de la part d'Israël à l'égard des Palestiniens. Et pour moi, c'est très important de le dire, elle s'inscrit dans un nettoyage ethnique qui a commencé il y a 75 ans. Et je le rappelle, moi, mes grands-parents ont vécu la Nakba. La Nakba, ce n'est rien d'autre qu'un nettoyage ethnique.
Est-ce que vous n'avez pas l'impression d'être un peu instrumentalisé par les insoumis pour ce que vous êtes, pour aller chercher les votes des jeunes de banlieue?
Non mais je crois que vous êtes... Pardon, mais votre question, elle est un tout petit peu déplacée.
Et pour ton quatrième top, tu voudrais féliciter la rédaction de France Inter.
Oui, une fois n'est pas coutume. Un petit coup de chapeau à France Inter, parce qu'ils ont fait un reportage en fait sur les manipulateurs, les propagandistes, on peut les appeler comme ça, israéliens ou franco-israéliens, à l'instar de Julien Baloul, qui en fait, on va voir la copie de ce reportage, la copie d'écran de ce reportage, qui en fait sont des gens qui se font passer de manière régulière. Donc je pense à Julien Baloul, qui se font passer pour des gens de la société civile qui donnent leur avis, qui vont essayer d'apporter la contradiction. En fait, on apprend dans cet article qu'ils sont de manière récurrente en lien avec les autorités israéliennes, donc avec le gouvernement de Netanyahou, et qu'ils reçoivent les éléments de langage qui vont ensuite distiller et donc qui font partie de la propagande guerrière de Netanyahou, qui vise évidemment à justifier le génocide en cours actuellement à Gaza. Donc ça fait du bien d'avoir ce genre de recadrage de la part d'un média comme France Inter en l'occurrence, qui invite parfois des gens qui sont légèrement borderline sur ces questions.
Et des tops, on passe au flop avec Pujadas.
Alors là, c'est tout à fait gravissime. C'est une espèce de séquence où ils vont essayer de justifier, donc sur LCI, ils vont tenter de justifier le fait que est-ce qu'on peut parler vraiment de famine actuellement, alors qu'on sait que les convois se multiplient, sont parfois même empêchés de passer à Gaza. Et donc, ils vont trouver une espèce de formulation, prendre des exemples de deux enfants qui sont décédés, selon eux, à cause de maladies et non pas à cause de la famine. Et ils vont montrer des étals garnis avec des chocolats, des bonbons, des fruits, des gâteaux. Et ça permettrait de justifier le fait qu'on ne peut pas actuellement parler de famine. Ils vont y revenir tout au long de cette séquence. Et ça vient de qui ? Bah de Pujadas, qui avait dit, je vous le rappelle, le 11 septembre 2001, « Waouh, c'est génial !» en voyant les avions se crasher sur les tours du World Trade Center. Je vous laisse écouter cet extrait.
Gaza est en état de famine. Là, on franchit un nouveau seuil. Famine, ça évoque le Soudan, ça évoque la Somalie, ça évoque des milliers, des dizaines, parfois des centaines de milliers de morts. Il y a 10 à 15 ans dans un cas, 7 à 8 ans dans l'autre. Donc, c'est un nouveau seuil. Alors, famine, le mot est directement utilisé par le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell. On va l'entendre dans une seconde. Le mot est utilisé par Ursula von der Leyen. Le mot est utilisé par des agences de l'ONU. Donc, est-ce qu'il est temps de tirer la sonnette d'alarme parce qu'on est effectivement en situation de famine, ou bien est-ce qu'il y a exagération, ou bien est-ce qu'il y a, notamment dans les images qui sont mises en avant, une forme de manipulation? Nous avons voulu nous faire, vous permettre de vous faire votre opinion. Voici les indispensables avec Quentin Berrichel.
Deux séquences. La première, la voici. Elle a été diffusée il y a tout juste deux semaines par l'agence de presse palestinienne Sanad et reprise par le compte X de Kogat. C'est l'organe humanitaire du ministère israélien de la Défense. On y voit un marché dans la ville de Rafah avec des étals, vous le voyez, plutôt bien fournis en fruits et légumes, en épices, en boîtes de conserve. Cela paraît assez éloigné des alertes de famine décrites par les organisations internationales et notamment l'ONU.
Et un de tes poteaux, c'est Frédéric Aziza, tu ne lui lâches décidément pas la veste.
Alors, c'est pas moi, sur le coup, c'est pas moi. Simplement, je me dis qu'au fil des chroniques, au fil des semaines, donc c'est une chronique hebdomadaire, au fil des semaines, je pointe assez régulièrement Aziza, qui a cette espèce d'obsession totale et absolue de faire qualifier la France Insoumise et Jean-Luc Mélenchon d'antisémites. Eh bien, je suis tombé par hasard sur une vidéo, un montage vidéo, alors je ne sais pas qui est à l'origine, mais enfin, je la remercie, pour vous montrer à quel point c'est une obsession, à quel point c'est récurrent et à quel point ça devrait quand même poser question aux responsables de Radio J de savoir si c'est toujours un journaliste ou alors un militant communautaire. Je vous laisse écouter.
Mélenchon, c'est quoi? C'est un antisémite? Et Mélenchon, c'est un antisémite, Éric Dupond-Moretti? Mélenchon est antisémite? Mélenchon, c'est quoi?
Mélenchon, c'est quoi?
Le parcours de Mélenchon, comment vous le jugez? Est-ce que vous considérez qu'il est antisémite?
Les exemples,
obsession antisémite chez Jean-Luc Mélenchon. LFI, c'est le nouveau parti antisémite. C'est-à-dire que le LFI est un parti raciste antisémite. LFI, c'est le parti antisémite. On a le nouveau parti anticapitaliste, nouveau parti antisémite. LFI, c'est le nouveau parti antisémite. Mélenchon, c'est un antisémite à l'insu de son plein gré, un antisémite tout court. Mélenchon, c'est quoi? C'est un antisémite à l'insu de son plein gré. Ou c'est un antisémite tout court? Mais quand même, Mélenchon, antisémite...
Je viens de vous répondre.
À l'insu de son plein gré, antisémite tout court. Mélenchon, c'est quoi? C'est un parcours à la DEA, à la Doriot? C'est un antisémite à l'insu de son plein gré ou un antisémite tout court? Mélenchon, une ordure antisémite?
Oui.
Hein?
Oui.
Comment vous le dites?
Mélenchon est une ordure antisémite.
Ouais. Est-ce que le procès en antisémitisme fait des gens qui Mélenchon est, pour vous, justifié? Oui, c'est un antisémite.
Oui.
Hein? Mais dites-le.
Ben, je vous le dis.
Non, mais j'ai pas compris le sens de votre réponse.
Enfin, c'est surtout un militant anti-Mélenchon.
Alors, je pense que c'est sa religion numéro un, effectivement.
Alors, tu voulais aussi évoquer l'état des lycées en région parisienne.
Oui, parce qu'on sait, par exemple, des syndicats comme CGT Éducation ou par l'AFCPE, l'Association de parents d'élèves, on sait très bien dans quel état se trouve un certain nombre de lycées en région parisienne. Et bien, il s'est trouvé sur BFM un certain James Chéron, qui est vice-président à la région en charge des lycées, qui est venu dire, vous allez écouter, c'est absolument extraordinaire et sans contradiction particulière, qu'en fait, il n'est absolument pas au courant du dossier, qu'on lui fait remonter des informations comme quoi tous les lycées sont nickel, que tout va bien. Si on pointe la vétusté des lycées, c'est évidemment une stratégie, devinez de qui? De LFI. Je vous laisse écouter.
L'état de l'établissement tel qu'il est décrit dans cette vidéo ne correspond pas à la réalité de cet établissement. Et je voudrais dire que nous avons depuis quelques mois maintenant un phénomène sur les réseaux sociaux qui s'apparente à de la manipulation politique. Ça a été théorisé par un député LFI qui s'appelle Louis Boyard, qui est député du Val-de-Marne, et qui explique, on le voit dans une vidéo, qui explique que LFI veut créer la panique en utilisant les réseaux sociaux. C'est ce qu'ils essayent de faire ici. Il ne faut pas tomber dans ce piège. Il ne faut pas tomber dans ce piège parce qu'il y a des travaux à faire dans des établissements et il faut pouvoir conserver la lumière sur les établissements qui nécessitent notre intervention et ne pas détourner notre attention sur des établissements qui ne nécessitent pas un tel brouhaha médiatique.
Ah, si LFI n'existait pas, il aurait fallu le créer.
Absolument.
Alors, il y a aussi Pascal Praud qui revient souvent dans tes flops et cette fois-ci, il y est encore.
Oui, absolument. Alors, la semaine dernière, il avait été épinglé par l'ARCOM, il avait été sanctionné pour avoir fait un parallèle entre à la fois l'immigration, qui serait pléthorique, et les punaises de lit. Voilà, il a été condamné. Et là, sur l'affaire Aya Nakamura, donc vous savez, cette fameuse chanteuse, qui est la plus écoutée, la chanteuse francophone la plus écoutée au monde, et qui est potentiellement, parce qu'on n'a encore aucune preuve tangible, qui serait susceptible de venir chanter du Édith Piaf pour la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques à Paris. Eh bien, il a eu une espèce de mea culpa léger en disant que peut-être, si on lui rentre dedans, c'est pour des raisons racistes qui seraient donc pas très bien dans une émission où, depuis des semaines et des semaines, tombent des poubelles entières de déchets sur la tête d'Aya Nakamura, qui sont évidemment des propos essentiellement racistes. Donc je vous laisse juste écouter la manière dont il présente les choses avec son petit sourire en coin. Regardez.
Vous voyez, ça m'ennuie quand même qu'elle soit huée dans le...
Oui, parce que
j'espère qu'elle n'est pas huée pour des mauvaises raisons. Vous me suivez ?
Je vous suis très bien.
Bon, on peut ne pas aimer Aya Nakamura, mais on peut ne pas l'aimer aussi pour de bonnes raisons. Ne pas aimer, pourquoi pas, ses paroles.
Mais c'est la banderole qui a été déployée par des identitaires... La banderole raciste, hein, disons-le.
Disons-le, exactement. Je trouve que cette jeune femme est victime de racisme.
Ah oui, c'est clair.
Bien évidemment.
Et alors, c'est tellement incroyable qu'il condamne le racisme sur CNews, Pascal Praud condamnant le racisme ou des propos racistes sur CNews, que, y compris, sa collègue et camarade Charlotte Dornelas, qui est notre Jeanne d'Arc orléanaise préférée, lui est rentrée dedans. Il s'est pris une véritable chasse de sa part, je vous laisse écouter, et juste après, on y revient.
Est-ce qu'on peut accepter qu'un artiste soit aimé par certains, détesté par...
Oui.
Bon, bah voilà, en fait,
mais je suis parfaitement d'accord avec vous.
Tous les débats, c'est insupportable.
Pourquoi c'est Marion Maréchal qui le dit ? Elle dit, elle parle pas français.
Non, elle chante pas,
elle chante
en
pas français.
Bah, vous venez de dire que vous aviez découvert l'expression. C'est bien qu'elle n'est pas courante en français.
Oui, mais vous voyez bien ce qu'il y a derrière cette phrase.
La banderole, c'est autre chose. Non,
vous voyez bien, bien ce qu'il y a derrière cette phrase. De
bah,
dire,
vous voyez ce qu'il y a, vous
bah,
voyez
tout le monde, derrière cette phrase. Tout le monde le voit.
C'est pour ça que la critique a existé. C'est pour ça aussi qu'elle est choisie, parce qu'elle est adorée partout dans le monde, vous le dites.
Alors, c'est assez sec, hein. Mais... Heureusement, Pascal Praud peut se consoler car il a reçu le soutien appuyé de Françoise Degoy dans un tweet qui dit « Disons-le, c'est très bien ce que dit Pascal Praud. Pas la peine de vouloir sonder les cœurs et les reins. Et pourquoi il le dit ? Peut-être juste parce qu'il le pense tout simplement. » Donc, on apprend grâce à Françoise Degoy notamment que Pascal Praud ne serait pas raciste et condamnerait tous les racismes.
Alors, tu as un coup de cœur cette semaine, Moumou.
Oui, alors c'est France Musique. Je ne parle pas beaucoup de radio ici. C'est l'antenne de France Musique en général. Et puis, une émission qui s'appelle En Piste, qui est présentée depuis 10 ans maintenant. Ils fêtent leur 10e saison par Émilie Munera et Rodolphe Bruno Boulmier. Alors, cette émission, c'est la seule, c'est très étonnant, mais c'est comme ça, c'est la seule émission de critique de disques qui évolue sur la bande FM. Plus aucune radio généraliste, en fait, ne consacre de temps d'antenne à la musique classique. Je trouve ça extrêmement dommage. Donc, je voulais les féliciter. Alors, si vous avez dans l'idée que France Musique, c'est... Nous venons d'écouter l'impromptu numéro 4 en si bémol majeur par Alfred Brendel. Nous allons maintenant écouter... Non, on n'en est plus là du tout. Stéphane Grand et Marc Voinchet ont pris, il y a quelques années de ça, les rênes de France Musique, et c'est devenu vraiment une émission du matin jusqu'au soir absolument passionnante. Je vous invite simplement à écouter une fois du matin, donc de la matinale de France Musique, qui pour moi est la meilleure, absolument la meilleure au niveau national, de Jean-Baptiste Urbain, jusqu'au soir très tard. Je vous invite à écouter et vous serez satisfait ou remboursé naturellement.
Remboursé par...
Par mes soins, je vous enverrai un superbe gobelet, Le Média, en récompense et en compensation.
C'est noté, enregistré. C'est désormais le temps de recevoir sur ce plateau Pablo Pio Vivien, rédacteur en chef de la revue et du site d'info Regard et intervenant régulier, les mauvaises langues diront caution de gauche, sur des plateaux mainstream. Salut Pablo.
Salut, salut.
Nous aimerions que tu nous prennes par la main et que tu nous racontes, que tu racontes à celles et ceux qui regardent cette émission, comment fonctionne une grande chaîne d'infos comme BFM ou une grande émission de service public comme Quelle Époque, et pour qu'on voit quel est l'intérêt d'y aller, quelles sont les marges de manœuvre qu'on y a et quelles sont les mécaniques qui se mettent en place. Première question. comment penses-tu être devenu un des chroniqueurs de gauche les plus en vue de cet univers impitoyable et très, très, très droitier quand même?
Les plus en vue, je ne suis pas sûr que ce soit genre, tout à fait le cas et tout à fait la réalité. En fait, moi, c'était il y a 6 ans. Franchement, c'est assez drôle la façon dont ça a commencé ma présence sur ces plateaux télé. C'est que j'étais très ami et collègue de Pierre Jacquemin, qui, à l'époque, était rédacteur en chef de Regard. Il venait de quitter le cabinet de Myriam El Khomri et il avait écrit un livre qui s'appelait « Ils ont trahi la gauche ». Et oui, défonçait en gros le gouvernement et Myriam El Khomri et la loi travail de Myriam El Khomri. Et donc, à ce titre, il intervenait sur les plateaux pour en gros vendre son bouquin. Comme il parlait bien, il était plutôt sympathique, etc., et sûrement qui passait bien à la télé. Ils l'ont rappelé, en gros, pour parler un peu d'autre chose, et puis pour suivre un peu la mobilisation contre la loi travail, en tant que chroniqueur de gauche, en gros. Ils faisaient ça gratuitement à l'époque, c'était vraiment des invitations comme ça, au coup par coup. Et un jour, il ne pouvait pas venir, et il a dit, vous n'avez qu'à prendre mon collègue, qui est journaliste à Regard, le tester. Et c'était à l'époque sur CNews. Et donc, j'ai fait comme ça mon premier plateau, un jour où il était rentré chez sa mère, ou je ne sais pas quoi, à Limoges. Et donc, c'est comme ça que la première fois, j'ai fait un plateau, c'était en face de Barbara Lefebvre, qui maintenant officie sur les grandes gueules sur RMC. Ça a été particulièrement dur. Franchement, je m'y attendais pas. J'avais même pas encore parlé. J'avais jamais parlé publiquement. Et en fait, elle a commencé par me pointer du doigt et à moitié à m'insulter en présupposant en fait ce que j'allais dire. Et puis, ils m'ont réinvité sur CNews à l'époque. CNews, entre parenthèses, c'était il y a 6 ans. C'était pas la chaîne que c'était aujourd'hui. CNews, d'ailleurs, au départ, c'est assez intéressant. Ça s'appelait iTélé quand ça a été créé. Et c'était censé être un peu le pendant de gauche de BFM, qui à l'époque était très droitier et qu'on disait même BFM.
C'était le groupe Canal.
C'était le groupe Canal, effectivement. Et puis après, il y a la dérive qu'on connaît de CNews. Donc j'ai été invité comme ça sur CNews. Et puis après, j'ai commencé à être invité aussi sur LCI. À l'époque, j'étais pas payé, donc t'es invité, il t'appelle comme ça, parfois au dernier moment, parfois avec un peu d'avance, etc. Et j'ai fait, notamment, j'ai suivi tous les Gilets jaunes, j'étais sur LCI à l'époque, tous les samedis, j'allais de 14h à 18h commenter les Gilets jaunes. C'était assez drôle parce qu'il n'y avait pas d'image, enfin on ne me voyait pas à l'écran, parce que genre, ils filmaient en gros les poubelles qui brûlaient sur les ronds-points. Et moi, je commentais en fait, j'étais face à l'époque à des gens plutôt de droite ou d'extrême droite qui disait que c'était vraiment scandaleux, hein, les Gilets jaunes, voilà. Et moi, j'essayais de défendre cette mobilisation et de dire que c'était bien, en fait, qu'il y ait des gens qui se mobilisent et qui disent merde au système tel qu'il fonctionnait. Et puis, il y a un moment, ils m'ont appelé sur BFM. Ça, c'était il y a 3 ou 4 ans, mais de la même façon, comme ça, au coup par coup, en fait, en fonction des sujets. Dès qu'on parlait un peu de gauche ou de trucs dans lesquels il fallait qu'ils aient un regard d'un type de gauche ou bien sur la stratégie politique des partis politiques, parce que quand même, à la base, moi, c'est ça, c'est là que j'étais le plus pertinent, ou bien sur des sujets de mobilisation sociale, etc., ils m'invitaient. Et puis, il y a 3 ans, j'ai commencé, ils m'ont proposé de faire un truc qui s'appelle « Face à Duhamel ». Donc, c'est face à Alain Duhamel. Il a 12 ou 13 minutes tous les jours, du lundi au jeudi, face à quelqu'un. Et ça, c'est un truc qui est rémunéré sur BFM. Donc, ils ont commencé à... C'est là que j'ai commencé à rentrer dans les rémunérations, quoi, à être... pigé. Donc c'est des piges comme on a dans différents journaux. Et puis ils m'ont appelé après pour d'autres émissions et notamment pour l'émission de 22h à minuit qui est aussi pigée. Ça s'est fait petit à petit comme ça. Donc maintenant quand je vais sur BFM à certains horaires, je le sais en fait d'une semaine sur l'autre. Par exemple, je vais tous les lundis soirs de 22h à minuit dans l'émission de Julie jusqu'à minuit. Dans cette émission, je suis pigé et je suis un chroniqueur autour du plateau avec, on est souvent 3 ou 4, le plus souvent je suis avec Rosine Bachelot par exemple, qui est un peu ma co-débattrice, qui fait la même chose que moi et qui est, j'imagine, pigée aussi.
Alors, Laurent Geoffrin, sur France Inter, évoquait, alors quand il a quitté CNews, en disant qu'il n'y retournerait plus pour X raisons, il avait évoqué sans rentrer dans le détail, il avait évoqué à peu près 200 euros par intervention. Mmh. On est à peu près dans cette fourchette-là.
Oui. Ouais, brut.
D'accord. Alors, est-ce que c'est à la fois, alors ça peut être les deux, hein, mais ça peut être, est-ce que ça, c'est plutôt la rémunération qui vous fait venir ou c'est plutôt l'envie de, alors d'abord qu'on parle de votre titre évidemment, regard, mmh. Mais aussi l'envie de porter une voix dissidente.
Bon, les deux, mon capitaine. Hein, c'est vrai que moi, je suis rédacteur en chef de Regard. Hein, c'est quand même ça mon boulot principal. C'est d'ailleurs comme ça qu'ils me définissent sur les plateaux de BFM ou les différents plateaux que je fais. C'est-à-dire que ça me situe. C'est comme ça. C'est, mon identité, elle est là. Hein. C'est pas chroniqueur BFM ou intervenant parfois. Mmh. Enfin, ça arrivait trois fois sur le plateau de Léa Salamé ou sur France 5 dans C'est ce soir. Je suis rédacteur en chef de Regard. Après, c'est sûr que ça, à Regard, on n'a pas des salaires mirobolants très très loin de là. Je vais pas vous dire combien je gagne. Non, mais c'est vraiment pas beaucoup. Non, mais en fait, en vrai, je pourrais le dire. Enfin, je gagne en dessous du SMIC en gros mm-hmm. à Regard. C'est un choix délibéré, hein, parce que comme j'ai déjà expliqué, moi, je même si je gagne vraiment pas beaucoup d'argent, parce que là, à la fin du mois, en gros, j'ai entre franchement, je vais être transparent, j'ai entre 1600 et 1800 en fonction de mes piges euros net, en fonction de mes piges sur BFM TV. Parce que ça dépend, vous savez, il y a des mois où j'en fais un peu moins, des mois où j'en fais un peu plus. Donc c'est pas énorme pour vivre à Paris. Après, moi je l'ai déjà dit, moi je suis un bourgeois, c'est-à-dire que j'ai fait des études, j'ai un mec qui gagne de l'argent et en gros qui participe en fait à genre voilà me permettre de vivre
correctement. À votre liberté de
voilà parce que 1800 balles à Paris, c'est compliqué de vivre même lorsqu'on n'a pas d'enfants comme moi. Mais dans la mesure où j'ai ce mec qui remplit globalement le frigidaire. Voilà, je vis assez correctement. Donc, j'en aurais pas vraiment, vraiment besoin, même si, quand même, si je commence à passer à 800 balles par mois sans BFM, ça va commencer à devenir un peu compliqué de finir le mois. Donc, c'est pas ça. Après, moi, j'y vais, effectivement, pour porter une parole de gauche. C'est-à-dire que j'estime que c'est un endroit qui est suffisamment sain, et c'est important de le dire, de l'exprimer comme ça, qui est suffisamment sain pour que je puisse m'exprimer comme je veux.
On parle de
BFM, exactement, parce que c'est là que je vais le plus souvent. Jamais en 3 ou 4 ans où j'y vais plusieurs fois par semaine, on m'a dit « tu dis pas ça ». Ni en amont, ni après, ni en aval. On m'a jamais restreint sur quoi que ce soit. Alors, effectivement, je ne suis pas maître des sujets. C'est-à-dire que ce n'est pas moi qui fais le bandeau. Ce n'est pas moi qui dis « ce soir, on va parler de ça plutôt que de ça ». Quand on me dit « tu vas parler de Pierre Palmade » parce qu'on va passer 2 heures sur Pierre Palmade, je ne suis pas responsable de ça, même si je pense qu'il y a des choses très intéressantes à dire sur ce qui s'est passé autour de Pierre Palmade, notamment lié au chemsex, etc. En fait, j'arrive toujours à m'en sortir et à essayer de trouver, même lorsqu'on parle de faits divers, où c'est pas le truc qui, a priori, m'intéresserait le plus. J'essaye, en tout cas, toujours d'essayer de trouver un angle qui puisse me permettre, moi, de dire quelque chose que je considère comme étant intéressant pour le téléspectateur.
Pertinent. Vous l'apprenez à quel moment vous avez à quel moment la liste des sujets
Dans la journée. Par exemple, quand c'est de 22h à minuit, c'est entre 14h et 16h. C'est-à-dire, j'ai 6h ou 7h pour préparer mes sujets. Parce que, en fait, je reste 2 heures sur le plateau. Mmh. Donc, comme les sujets, ça dure entre 10 et 25 minutes, il y a souvent 3 ou 4 sujets, même si parfois il y a des sujets qui reviennent dans les 2 heures. Ils me préviennent 6 heures avant, ce qui donne largement le temps. En plus, c'est des sujets que je traite souvent à Regard, par ailleurs. Donc, c'est pas des sujets où je débarque, quoi. Enfin, je veux dire, on va me dire, Bruno Le Maire, par exemple, veut faire 20 ou 30 milliards d'économies. Je débarque pas sur le sujet, à 14h. C'est des sujets que j'ai déjà traités avec des économistes, notamment des économistes atterrés, via Regard.
Il n'y a pas un risque, on en parle ici de manière assez régulière, il n'y a pas un risque de tautologie, c'est-à-dire de pouvoir avoir cette impression qu'on peut aborder tous les sujets en connaissant parfaitement chacun des sujets, alors qu'en fait, on est plutôt spécialisé. J'imagine que vous l'êtes, spécialisé dans une chronique, une rubrique particulière, ça peut être la politique, la société. Vous n'avez pas ce sentiment, vous n'avez jamais eu ce sentiment de vous dire est-ce que je suis légitime pour parler de tous les sujets?
Oui, ou dans l'autre sens, est-ce que je ne suis pas un imposteur? C'est tout à fait juste et je pense que, surtout dans ma situation, je pense que ce ne serait pas normal, en fait, que de ne pas l'avoir. Après, encore une fois, j'essaye de ne... Moi, par exemple, je fais partie des gens qui, le plus souvent, essayent de citer mes sources. C'est-à-dire que quand on me dit, moi, je ne suis pas, effectivement, par exemple, un économiste spécialiste de la réforme des retraites, comme par exemple peut-être Michaël Zemmour. Donc, D'ailleurs, ce qui rend souvent Michaël Zemmour beaucoup, beaucoup, beaucoup plus efficace que moi lorsqu'il s'agit de traiter des sujets de l'assurance chômage ou de la réforme des retraites que moi. Okay ? En revanche, je lis Michaël Zemmour. Et, c'est-à-dire, et je prends des notes quand j'entends parler à la radio, quand il sort une note ou je ne sais pas quoi, je prends des notes et après j'arrive et je dis « bon ben voilà ce qu'a dit Michaël Zemmour ». Après, j'ai une autre façon de le dire. C'est-à-dire que Michaël Zemmour, il est universitaire, il a ses mots pour le dire, etc. Et il est plutôt habitué à des interviews. Moi, ce n'est pas des interviews. Moi, je suis dans un cadre de débat. C'est-à-dire qu'en gros, dès que j'ouvre la bouche, j'ai mon camarade de droite en face de moi qui me saute à la gorge et qui, j'ai à peine dit deux phrases, qu'il remet en question ma légitimité à dire les choses, mais surtout, il dit exactement le contraire. Et là, moi, mon boulot, en gros, c'est de réussir en utilisant d'autres outils que Michaël Zemmour, où lui, c'est le raisonnement, la science économique, etc. Moi, mes outils, bah, c'est aussi l'émotion. C'est aussi c'est plein d'autres choses, en fait, que je vais essayer de convoquer pour porter le point, enfin, tenir, en gros, mon débat. Après, je ne sais pas si c'est efficace. Ça, c'est une question que je me pose en permanence. Est-ce que je ne suis pas genre la caution de gauche ? Non, être la caution de gauche, encore, ça va. Fin. Mais est-ce que je ne suis pas un clown, en gros ? Est-ce que je ne ridiculise pas ce que j'estime être ma famille politique, c'est-à-dire la gauche au sens large ? C'est une question que je me pose souvent. Et en même temps, je me dis, bon, bah, ça reste quand même, si on prend les trois chaînes d'information en continu, que sont, ou les quatre, France Info, LCI, CNews et BFM, si on dit, bon, bah, fin, ça, c'est dégueulasse, genre, tous ces gens, ils font n'importe quoi, etc., et qu'on n'y va pas, bah, ça pose quand même un vrai problème démocratique, en fait, parce que les gens, moi, il y a des gens dans la rue, tout à l'heure, Théo a dit que j'étais genre le plus en vue, je ne suis pas le plus en vue, mais par contre, il y a des gens qui me reconnaissent et qui sont de gauche et qui sont honnêtement de gauche et qui me disent mais merci en fait de tenir cette parole là à la télé ou d'essayer de la tenir. J'y arrive pas tout le temps, hein. Franchement, parfois genre je suis là, genre il y a trop de gens, il y a trop d'adversité, il y a trop de les débats sont trop violents et genre je vois je bats un peu en retraite, donc et j'apprends parce que ça s'apprend aussi, hein. Je vois, hein, parfois des gens qui débarquent sur le plateau et qui sont vraiment des gens brillants, des gens intelligents et des gens de gauche. Et qui, parce que genre un plateau télé, ben c'est particulier, genre t'as les lumières, t'as les machins, t'as tout un espèce de décorum, etc. Il faut aller très très vite, hein. T'as genre 10 secondes avant que genre la personne d'extrême droite en face de toi te coupe la parole. Donc c'est moi par exemple maintenant je sais, genre ma thèse, enfin ce que je dois dire de plus important, c'est dans ma première phrase. Tu vois, là vous me laissez parler, donc je pourrais jamais m'arrêter, mais genre je sais que sur BFM, si j'ai pas dit dans ma première phrase la chose la plus importante, j'aurais sûrement jamais l'occasion de la dire, dans l'émission. Bon, mais ça, c'est des mécaniques en fait que tu apprends au fur et à mesure. Donc là-dedans, j'ai l'impression d'être un minimum efficace. Après, franchement, moi, j'attends toujours le moment où sur BFM comme sur d'autres chaînes ou je sais pas quoi, on dira bon, bah, on a trouvé plus efficace, on a trouvé plus télégénique, on a trouvé plus intelligent. Et je comprendrai parce que j'ai mes défauts, j'ai mes peurs, j'ai mes machins, j'ai mes limites aussi dans cet exercice.
Et globalement, est-ce que tu considères que c'est une scénographie qui est structurellement favorable à la droite et à l'extrême droite ? Est-ce que quelque part les chaînes d'info ne porte pas l'agenda de l'extrême droite, même si elle ne dit pas exactement la même chose, mais dans la manière de poser l'agenda, elle facilite la tâche à ceux qui capitalisent sur un certain nombre de thèmes.
Bah, c'est-à-dire, je lis, j'écoute Mourad, l'œil de Momo, je lis en fait tout ce qui se fait en matière de critique des médias, que ça soit à Acrimed, que ça soit à Arrêt sur Image, que ça soit, je sais pas moi, Samuel Gontier sur Télérama, enfin, voilà. Je comprends en fait genre ce que nous essayons en fait collectivement de faire, et c'est important en fait que cette critique des médias existe. Après moi vraiment je suis pas à l'intérieur de la rédaction de BFM TV, hein. C'est-à-dire que genre pour être tout à fait clair, vous avez les plateaux au rez-de-chaussée, moi je vais sur les plateaux, et puis la rédaction elle est au premier étage ou au deuxième étage, dans les étages, et moi j'y vais jamais, je vais pas à les conférences de rédaction de BFM TV, je ne participe pas au choix des sujets. En revanche, comme ça fait 3 ans, bah, j'ai lié des amitiés en fait avec des journalistes, avec des techniciens, etc., et je sais que comme dans toute rédaction, à BFM TV, ben, y a des débats, il y a des conflits apaisés, hein, enfin, le plus apaisé possible, j'espère, sur ben, quel sujet on va mettre en avant, quel sujet on va mettre en avant, genre pourquoi est-ce qu'on a mis hier tel sujet en avant, ben, est-ce qu'aujourd'hui on va refaire la même bêtise, on va reprendre ce sujet, etc. Enfin, je veux dire, c'est des endroits en fait, qui vivent. Il ne faut pas imaginer en fait, que c'est monolithique, que c'est Patrick Drahi et maintenant Rodolphe Saadé, puisque ça a changé de propriétaire, que c'est eux qui dessinent une éditoriale. Absolument pas. Il y a des débats comme partout. Et
mais c'est les chefs qui tranchent.
Comment? Mais d'accord. Bah alors déjà, les chefs, c'est pas les propriétaires. Ça, c'est la première chose. Enfin,
ils sont nommés par les propriétaires.
Ils sont nommés par les propriétaires, mais ça, c'est vrai dans toute entreprise. Ils ont quand même de l'attitude. Et puis ça reste. Et c'est parfois, j'entends des gens qui font des critiques des médias en oubliant que, en fait, ce sont quand même des professionnels. Et j'ai même, en tout cas, sur BFM, sur CNews, je mets un peu à part parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, tout est devenu un peu compliqué, mais je pense que mon raisonnement est même vrai pour CNews, même si c'est une chaîne, encore une fois, où je valide totalement toutes les critiques qui sont faites à cette chaîne. Mais sur BFM, c'est vraiment des professionnels, c'est-à-dire que c'est des gens, en fait, qui essayent de réfléchir, qui ont une éthique de journaliste, qui ont un rapport à l'information qui n'est pas forcément le nôtre dans nos médias, en fait, qui sont indépendants, qui sont dits indépendants des puissances de l'argent, mais eux, lorsqu'ils traitent un sujet, lorsqu'ils choisissent de traiter un sujet, bah, ils se disent, bah, tiens, qu'est-ce qu'on va mettre en avant? Est-ce qu'on met en avant ça? Est-ce qu'on met en avant ci? Et d'ailleurs, ce que tu fais, en fait, Mourad, en mettant les tops et les flops, c'est très intéressant, c'est très important, en fait, de faire ce travail-là, mais il faut faire attention. C'est que tu mets en avant, en fait, une petite partie de ce qui est dit sur BFM. Et moi, j'entends, je vois, en fait, les polémiques qui sont générées par des plateaux où, en gros, on donne 5 minutes pour Hitler et 5 minutes pour les Juifs. Je trouve insupportable quand les plateaux sont composés de cette façon-là. En revanche, c'est pas que ça, BFM. BFM, c'est aussi, et les chaînes d'information en continu en général, il y a d'autres choses qui s'y disent, il y a des reportages qui sont faits, il y a des gens qui sont sur le terrain, qui sont sur le terrain en Ukraine, qui sont sur le terrain en Israël et en Palestine et en Cisjordanie. Il y a des gens, il y a par exemple un truc, c'est une fois ou deux fois par semaine parfois, une séquence de reportage qui est quand même à 21h, c'est-à-dire une chaîne un moment de grosse audience qui s'appelle Ligne Rouge, et les journalistes de Ligne Rouge, je peux vous dire que c'est des vrais professionnels et des sujets pour en avoir regardé quelques-uns, mais c'est vraiment des sujets de qualité. C'est-à-dire que c'est pas parce que, genre, je sais pas quoi, à 18h20 ou à 22h15, oui, effectivement, ils ont fait un plateau, où genre, je me dis, mais pourquoi est-ce qu'ils ont fait un plateau comme ça? Pourquoi est-ce qu'ils ont invité ces personnes-là? Je partage, à mon avis, les mêmes critiques que vous, que ça, c'est pour l'ensemble de la journée et qu'il faut jeter, en gros, le bébé avec l'eau du bain. Même si, encore une fois, toutes les critiques faites à l'égard de BFM, comme d'autres chaînes de télévision, sont tout à fait légitimes. Et c'est important que, dans le cadre de notre démocratie, on en parle.
Oui, Pablo, ma dernière question, c'est sur la sociologie des chroniqueurs. Parce qu'il y a des invités, il y a des chroniqueurs. Ouais. Il y a des gens qui viennent gratuitement et des gens qui sont payés pour cela. Et j'ai l'impression, de loin, que finalement, tous les profils, disons, issus du monde ouvrier ou bien issus même des minorités ethniques sont très peu représentés parmi les chroniqueurs. On peut les accepter parmi des invités, mais finalement, le monde des chroniqueurs reste très bourgeois et très blanc. Est-ce que je me trompe?
Non, je ne pense pas que tu te trompes. Après, j'ai pas fait d'études genre très resserrées et très précises sur le sujet, mais c'est vrai que globalement, je te rejoins complètement là-dessus. Hélas, c'est genre un travers que l'on retrouve dans beaucoup d'endroits de la société, à commencer par la politique représentative. Aujourd'hui, franchement, quand tu regardes, même à gauche, genre le nombre d'ouvriers qui sont élus dans ce que j'appelle ma famille politique, ou le nombre de gens issus des minorités, il reste très minoritaire, quoi. Et trop minoritaire, à mon sens.
Un chroniqueur en RMC, il a été débarqué.
Exactement. Non, mais alors après, je ne sais pas s'il a été débarqué du fait de son positionnement politique.
Il a été débarqué.
Si c'est pour des raisons de racisme, des raisons d'anti-ouvriérisme, ou si c'est pour des raisons de positionnement politique, que d'ailleurs, en passant, je valide totalement Révolution Permanente, tu vois. Mais genre, c'est pas le sujet. Mais peut-être que c'était ça, peut-être que c'était son positionnement politique. politique. Il y a des personnes racisées dans les grandes gueules, hein, pour le coup. Tu vois, d'ailleurs, il y en a, y en a oui, sûrement plus qu'ailleurs.
Il y a beaucoup de cautions. Il y a beaucoup de. C'est plus facile de percer en tant que chroniqueur quand on est à rebours. C'est-à-dire que si vous êtes noir ou arabe et que vous développez la pensée printemps républicain, vous allez monter plus vite.
Ouais, je sais pas. Encore une fois, franchement, le cas par exemple des grandes gueules d'RMC, c'est assez intéressant. Hein. Je dis pas que je suis raccord avec beaucoup des gens qui sont des chroniqueurs sur ce plateau, mais pour le coup, il y a une diversité en fait représentée sur le plateau qui est pas inintéressante. Alors après, on peut critiquer le ton, on peut dire ouais, ils disent n'importe quoi, blablabla, tout ce qu'on veut, et je donnerai sûrement raison aux gens qui portent ce genre de critiques, mais il y a quand même, il y a certains endroits de la télé, tu vois, et bon là, en l'occurrence, c'est la radio RMC, mais où il y a un minimum de représentativité. Mais après, t'as raison, mais pour le coup, hélas, le racisme ou l'anti-ouvriérisme, il est structurel dans notre société, c'est-à-dire que les paroles de ces... j'aime même pas dire minorité, tu vois, parce qu'on est même plus sur des minorités. On pourrait poser aussi la question de la femme, et des femmes présentes sur ces plateaux et des rôles auxquels elles sont assignées. Enfin, c'est vrai qu'il y a plein de questions, mais encore une fois, c'est pas spécifique à la télévision. Je pense que tu prends les entreprises du CAC 40, tu prends globalement le monde de l'entreprise, tu prends la politique, tu prends plein d'endroits. Hélas, genre tous les travers que tu pointes du doigt à juste raison, bah on les retrouve aussi.
Merci Pablo. Juste avant de terminer, Mourad, tu avais des petits remerciements.
Oui, comme à l'accoutumée. Maintenant, je trouve ça très 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 sympa et très juste parce que c'est des gens qui font vivre le débat, notamment sur les réseaux sociaux. Je voulais cette semaine saluer un nom très dur à prononcer, Chantung 31, qui s'appelle aussi chrétien, V. Vatsaria, Dujac, Johan, Omar 75, Petit Chat Rouge, Jean Janval, Anarlov, Bembeli, Natalia G. Gonzalez, Lagisker, Silvio Gessel, Insoumiac 59, Isab Sénécal, Did 123, Manou 44, Zabouvillon, Sam Boulanger, Jacques Chirac avec deux E, Carolina Thibault, Agathe Énervée, Vernaïf, Zora, Stéphane K de Bretagne et Nena B. Ici on lutte. Et j'avais juste deux autres remerciements par rapport à leur production qui est très particulière. C'est à la fois Ulysse, LY2S et Caisse de Grève avec un S qui font des montages absolument incroyables, qui servent d'ailleurs, qui sont souvent retweetés, rebalancés, parce que c'est d'une qualité extraordinaire et je tenais à les remercier en particulier.
Merci Mourad et merci à vous d'avoir regardé L'œil de Moumou sur le média, sur le canal 350 de la Freebox, sur YouTube ou sur notre site internet, Le Média, votre média, on vous le rappelle, ne vit que des abonnements de soutien et des dons de celles et ceux qui le regardent et l'aiment. Si vous le pouvez, donc allez sur lemediatv.fr/soutien et donnez-nous de la force, restez connectés aux médias.